et bienvenue sur la radio des Petits Renards. Je m'appelle Maïlys et je suis en CE2. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième émission de l'année. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui diffusés en direct. Je ne serai pas seule. Je suis comme toujours entourée de toute l'équipe radio de l'école Camille. Salut les copains.
Salut.
J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui.
Oui.
Toute l'équipe vous a préparé une émission remplie de très belles chroniques et de quelques surprises, mais je vous laisse découvrir tout ça tout à l'heure. Avant de commencer notre émission, je vous présente ma co-animatrice, Elissa.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Elissa et je suis en classe de CM1. Je suis super contente de vous co-présenter cette émission. Surtout que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une invitée en direct. Mais chut, je garde un peu le suspense. En préparant cette émission, on s'est interrogé sur les choses que l'on aimait faire, les uns et les autres. Et on s'est très vite rendu compte que l'on aimait surtout faire les choses en rapport avec des écrans. Regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo ou s'amuser avec une tablette. On s'est alors dit pourquoi ne pas aborder cette question. Au sommaire donc de cette émission, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette question des écrans et de leur usage est compliquée, mais aussi très importante. Et nous allons surtout vous proposer plein d'activités passionnantes à faire à la place de regarder des écrans.
Pour ce sommaire, je crois que tu vas justement nous parler avec Assil d'un écran un peu spécial que l'on regarde d'une manière occasionnelle, le grand écran, à savoir le cinéma.
Le cinéma est un endroit où les spectateurs sont assis confortablement dans le noir et regardent un film sur un écran géant. On peut y aller en famille, avec des amis ou encore avec notre classe à l'école. C'est un lieu pour se divertir, s'amuser, rigoler, exprimer ses émotions, mais on n'a pas le droit de parler. On peut aussi grignoter de la nourriture comme des chips ou des pop-corn et plein d'autres petites choses à manger. Il y a plusieurs types de films différents. Ceux qui montrent le réel, comme les documentaires, et ceux de la fiction. On peut les classer par catégorie selon leur genre. Horreur, amour, action, science-fiction, comédie, aventure, etc. Moi, je préfère les films d'animation comme Wish par exemple. Et vous les copains, quel genre de film préférez-vous ?
Moi, c'est les films humoristiques comme Maman, j'ai raté l'avion, qui est vraiment super marrant.
Moi, j'ai bien aimé Sacrée Sorcière, un film fantastique tiré d'un livre de Roald Dahl.
Il y a plusieurs cinémas à Strasbourg. Je suis déjà allée au cinéma UGC Cinécité, qui est un très grand cinéma avec beaucoup de salles. Les écrans sont vraiment géants. Je suis aussi déjà allée au cinéma Le Cosmos, qui s'appelait avant l'Odyssée. C'est souvent dans ce cinéma que l'on va avec l'école. C'est un cinéma qui ressemble à un ancien théâtre avec de très belles décorations au mur et un immense rideau rouge. C'est vraiment très beau. L'un de mes meilleurs souvenirs au cinéma est lorsque j'étais avec toute ma famille en vacances à Castres, à côté de Toulouse. Et nous sommes allés voir le film Aquaman, un film d'action. C'était vraiment un super moment en famille.
Moi, je suis déjà allée plusieurs fois au cinéma avec l'école. Et c'était des expériences plutôt partagées, car on ne peut pas choisir sa place dans la salle ni le film que l'on va voir. Par contre, les points positifs à une telle sortie est de pouvoir découvrir des films que l'on n'aurait jamais choisis et de pouvoir avoir cette expérience avec ses copains de classe. Et vous les copains, vous aimez aller au cinéma avec votre classe ?
Ça dépend des fois, car parfois les films ne me plaisent pas du tout. Mais grâce à l'école, je vois des films que je n'aurais jamais pensez à aller voir.
Moi, j'ai beaucoup aimé quand nous sommes allés avec ma classe voir La Prophétie des Grenouilles. C'est l'histoire des personnages qui attendent la décrue suite à un déluge sur un petit bout de terre. C'est un film avec un peu de tout. Il y a de l'humour, de l'action, de l'aventure et de la peur. C'est une histoire qui donne des frissons tout en étant super.
le cinéma est une expérience à partager. Nous vous le recommandons vivement.
Super chronique les filles. Moi aussi j'aime beaucoup le cinéma et j'y vais assez souvent. On va maintenant écouter la chronique santé de Lise, qui est aujourd'hui consacrée justement à la question des écrans. Lise, c'est à toi.
Comme l'a évoqué Elissa au tout début de l'émission, quand nous avons discuté entre nous de ce que nous aimions faire en dehors de l'école, et nous nous sommes rendus compte que l'on était nombreux à aimer passer du temps à regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo ou encore à utiliser un ordinateur ou une tablette. On a commencé à se poser plein de questions sur ces pratiques liées aux écrans. Mais pour trouver des réponses, nous avions besoin de l'avis d'une spécialiste. Nous avons donc demandé à Aurélie Armand, l'infirmière scolaire, de venir nous éclairer sur cette question. Bonjour Aurélie et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Comment allez-vous ?
Merci, je vais très bien. Je vous remercie toute l'équipe de nous avoir invités aujourd'hui avec Lucille, l'étudiante infirmière, pour parler avec vous sur les écrans.
Tout d'abord, l'équipe s'est demandé pourquoi nous étions si facilement attirés par les écrans.
Quand un écran est allumé dans une pièce, notre attention est forcément attirée par les images qui y défilent, les lumières qui changent, les différentes couleurs et les sons que l'on entend.
Si nous sommes attirés par les changements de couleurs et de sons, quels sont les effets des écrans sur notre cerveau ?
Lorsque l'on regarde un écran, le cerveau reçoit énormément d'informations visuelles. Comme il est occupé à les trier, il est moins disponible pour s'occuper de ce qui nous entoure ou se passe autour de nous, et nous voilà déjà comme hypnotisés. On ne fait plus du tout attention au reste. Quand on regarde un écran, notre cerveau est presque comme endormi. On dit qu'il est passif. Il ne fait pas grand-chose et ne réfléchit pas beaucoup. Mais notre cerveau a besoin de réfléchir, de penser, d'apprendre, surtout lorsqu'on est enfant pour grandir. Et pour cela, il faut bouger, construire, lire, jouer, discuter, manipuler, etc. Quand on regarde la télévision, on ne fait pas tout ça.
Mais du coup, est-ce que les écrans sont dangereux ?
Je dirais que les écrans ne sont pas toujours dangereux. Ils ont même apporté plein de belles choses avec leur apparition. Par exemple, si tu as un exposé à réaliser, tu peux effectuer de nombreuses recherches depuis l'ordinateur ou la tablette de la maison pour enrichir tes connaissances. Si tu as de la famille éloignée, tu peux communiquer avec elle par visio. Et les chirurgiens utilisent beaucoup les écrans pendant leurs opérations pour être plus performants. Cela a amélioré notre quotidien. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est le temps qu'on passe sur les écrans et ce qu'on y fait, ce qu'on y voit. Lorsque l'usage n'est pas cadré, il peut y avoir effectivement des dérives et des dangers pour la santé. Les écrans peuvent être dangereux, par exemple lorsque le contenu n'est pas adapté à l'âge de celui qui le regarde. Cela peut causer des peurs, des angoisses, de la violence, voire même des traumatismes chez l'enfant. Pour nous aider, il y a souvent des indications à la télévision ou sur les jeux vidéo pour les âges minimums à avoir pour les regarder ou y jouer. Certaines images ont aussi besoin d'être accompagnées par un adulte afin de faire la part des choses entre ce qui existe dans la vie de tous les jours et ce qui est inventé. Par exemple, dans un film, Arthur et Émir sont ennemis, mais dans la réalité, les deux acteurs s'entendent très bien. Certains d'entre vous aiment regarder des dessins animés avec des animaux qui parlent. C'est rigolo parce que ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Ou alors dans les publicités par exemple, on peut voir de bons gros hamburgers tellement gros qu'on n'arriverait pas à les croquer dans la vraie vie, mais leur image est améliorée à l'ordinateur pour te donner envie d'en manger et du coup d'en acheter. Il y a aussi des effets sur le langage chez les tout-petits. Les écrans peuvent aussi avoir des effets sur le sommeil. On met plus de temps à s'endormir après avoir regardé un écran. La lumière bleue diffusée par les écrans donne une mauvaise information au cerveau et il ne se prépare pas à l'endormissement. Et enfin, les écrans peuvent avoir des effets sur le surpoids. Plus on est passif devant la télé, moins on bouge.
Mais alors, est-ce que l'on doit arrêter d'utiliser des écrans ?
Beaucoup d'études mettent en avant la diminution du temps de sommeil, le retard dans l'acquisition du langage, de la capacité à gérer ses émotions, son autonomie, son bien-être, l'estime de soi, etc. Ce n'est pas arrêter les écrans qu'il faudrait, parce qu'ils apportent aussi des belles choses, comme on a vu. Mais il faut les cadrer pour vous permettre de continuer à jouer, découvrir, bouger et même vous ennuyer pour permettre à votre cerveau de poursuivre sa construction.
J'ai bien compris qu'on n'est pas obligé d'arrêter d'utiliser des écrans, mais qu'il faut plutôt encadrer sa pratique. Mais est-ce la même utilisation pour tous les âges ?
Je vous propose une méthode des 4 pas de Sabine Duflo qu'on peut adapter du CP au CM2. Numéro 1, pas d'écran le matin. Numéro 2, pas d'écran pendant les repas. Numéro 3, pas d'écran avant de dormir. Et numéro 4, pas d'écran dans la chambre. En dehors de ces temps, discutez avec vos parents sur l'organisation du temps d'écran pour savoir à l'avance comment vous allez organiser votre temps de la journée. Plusieurs possibilités existent. Pas d'écran les jours d'école, un ou deux épisodes de dessin animé par jour, un film en famille le week-end. À vous de trouver la solution la plus adaptée avec vos parents.
Ok, mais si on regarde beaucoup d'écrans, comment faire pour diminuer ?
Au début, lorsqu'on diminue ou arrête les écrans, les enfants ont l'impression de ne rien avoir à faire. Ils ne savent plus quoi faire. Mais petit à petit, les envies reviennent. Il faut se faire plaisir et dans les périodes d'ennui, vous deviendrez très créatif.
Un grand merci à Madame Armand. Vous nous avez très bien éclairé sur cette question des écrans. On a appris plein de choses, à nous maintenant de la mettre en pratique.
Merci Lise et surtout merci à Aurélie Armand pour votre présence. Cette interview a été très instructive. Nous avions bien compris que le danger n'était pas les écrans, mais la manière dont on l'utilise. Notre côté, toute l'équipe a voulu présenter des activités alternatives aux écrans. Et justement, Lise va nous parler de l'une de ses passions, la danse hip-hop.
Selon le type de danse, il y a différents mouvements, rythmes et musiques. On peut danser juste pour le plaisir ou faire partie d'un club ou sans chorégraphie comme moi. Il existe différentes danses, la danse classique, la danse contemporaine, la danse de salon comme le valse, le rock, le hip-hop. Je vais vous parler du hip-hop. Le hip-hop est une danse qui vient des États-Unis, plus précisément dans les rues de New York. Ce mouvement artistique a débuté au début des années 1970. Il s'est peu à peu diffusé dans le monde entier. Le hip-hop se décompose en plusieurs types de danse. Il y a entre autres le breakdance, c'est une danse au sol avec des acrobaties, le popping, une danse comme un robot, et le locking, une danse debout comme un clown. J'ai fait 3 années de cours préparatoires en danse classique et contemporaine. J'ai eu envie de changer de style de danse pour une danse plutôt tonique et qui pouvait me permettre de me dépenser avec de la bonne musique. À chaque séance, on s'entraîne à reproduire des figures qui regroupent toutes les disciplines du breakdance. J'adore le hip-hop, c'est la danse que je préfère. On bouge dans tous les sens et chaque semaine, j'ai vraiment hâte d'aller à mon cours et apprendre de nouvelles figures. Mon professeur est génial. Grâce à lui, j'ai énormément progressé. Et en plus, j'ai fait un spectacle le samedi 16 mars et j'ai vraiment adoré.
Chronique, j'aimerais vraiment que tu nous montres quelques mouvements, peut-être une fois l'émission terminée. Nous pourrions faire une petite session de danse.
Bien volonté, aucun problème.
Je crois savoir, Lynn, que vous avez avec Maëlys et Asile découvert un autre univers musical un peu différent de celui de la musique classique.
Vous allez nous parler de votre rencontre avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et de ses familles d'instruments.
Un orchestre est un ensemble d'instruments qui sont réunis pour jouer une œuvre musicale. Il existe différents types d'orchestres, plus ou moins nombreux. Avec notre classe, nous sommes allés à la rencontre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
L'Orchestre Philharmonique est le plus important des orchestres classiques. Les instruments sont nombreux, il est dirigé par un chef d'orchestre qui se situe au milieu de l'orchestre. L'Orchestre de Strasbourg est le plus ancien de France.
Dans un orchestre philharmonique, il y a quatre grandes familles d'instruments.
La famille des cordes est divisée en plusieurs familles, les cordes frottées et les cordes pincées. On nous a présenté les cordes frottées. Les instruments de cette famille ont presque la même forme. C'est leur taille qui les différencie. Chaque instrument est constitué d'une caisse de résonance, d'un manche et de quatre cordes. Le musicien utilise un archet pour jouer le plus petit et donc le plus aigu de cette famille, et le violon, puis vient l'alto, le violoncelle et enfin la contrebasse.
La famille des bois se compose de la flûte, du hautbois, de la clarinette et du basson. Ces instruments sont des tubes de bois ou de métal pour la flûte traversière, percés des trous qui sont ouverts et fermés par des clés. Les cordes, plus l'instrument est petit, plus le son est aigu et plus il est grave, grand, plus le son est grave.
La famille des cuivres est la famille la plus sonore de l'orchestre. Dans cette famille, on retrouve le cor, la trompette, le trombone et le tuba. Chaque instrument est constitué d'un tube métallique plus ou moins enroulé sur lui-même.
Nous avons déjà eu la chance de découvrir trois familles d'instruments. Nous irons bientôt découvrir la famille des percussions.
Lors du concert, les instruments sont disposés par famille autour du chef d'orchestre. Les violons sont sur la gauche du chef d'orchestre, les autres instruments à cordes sur la droite, face au chef d'orchestre. On retrouve la famille des bois. Derrière la famille des bois se trouve la famille des cuivres. Les percussions sont tout à l'arrière de l'orchestre.
Avec les CE2 de l'école, nous sommes allés écouter un concert de musique classique, Schubert, mon ami. Ce concert raconte la vie du compositeur Schubert. Voici quelques impressions de nos camarades après ce concert.
Pas trop. Parce que j'aime pas trop la musique classique et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de, musique.
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était très mélodieux.
Oui, parce que c'était de la musique classique et j'aime bien la musique classique.
Oui, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de musiciens, il y avait beaucoup d'instruments.
Schubert est un célèbre compositeur de musique classique autrichien, né en 1797. Il aimait la musique, mais il était instituteur jusqu'en 1816. Il décide alors de quitter l'enseignement
pour vivre de ses compositions musicales. Il joue ses œuvres lors de soirées privées, les Schubertiades. Il est décédé à seulement 31 ans en 1828.
Lors du concert, Marie Poulenc se glisse dans la peau d'une amie de Schubert pour nous présenter le compositeur et sa grande symphonie. Elle nous a fait traverser le temps et nous imaginer la vie à l'époque de Schubert. On a aussi pu découvrir la vie de Schubert et son époque. Les musiciens nous ont joué quelques morceaux célèbres composés par Schubert, comme la 9e symphonie, la Truite.
Lorsque nous sommes arrivés dans la salle du concert, les musiciens étaient déjà assis sur la scène. Les musiciens s'échauffent, se préparent, s'accordent pour le concert. Le chef d'orchestre est arrivé un peu après. Après avoir salué le public et les musiciens de l'orchestre, le concert peut commencer. Même si certains élèves n'ont pas apprécié ce concert, la majorité voudrait retourner écouter un concert de musique classique. Voici quelques-unes de leurs réponses.
Oui, j'aimerais beaucoup retourner.
Pas trop. Parce que j'ai pas vraiment aimé et du coup ça me donne pas envie d'y retourner.
Oui, beaucoup.
Oui. Parce que j'aime la musique.
Quand nous avons assisté au concert, le chef d'orchestre nous a fait rire. Il était très dynamique. Pendant qu'il dirigeait les musiciens, il lui arrivait de sauter et de balancer sa tête, ses cheveux bougeaient dans tous les sens.
Certains élèves de notre classe jouent déjà d'un instrument, mais après ces découvertes, d'autres ont envie d'essayer un instrument. Voilà quelques envies.
Oui, la guitare.
J'aimerais bien faire du violon.
J'aimerais bien essayer de la clarinette.
Oui, de la batterie.
Le piano, mais j'en joue déjà, sinon j'aimerais jouer un autre instrument, la guitare.
Merci pour cette riche chronique entre le concert et la découverte des familles d'instruments. Vous avez offert une belle immersion dans cet univers de la musique classique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'activité peut-être la plus facile d'accès en dehors d'un écran, à savoir la lecture. En effet, Maëlys, tu sais de quoi vont nous parler Hugo et Lise?
Oui. Hugo et Lise vont nous présenter le prix littéraire des Incorruptibles, auquel notre école participe encore une fois cette année, et vont surtout en profiter pour nous parler de lecture et nous présenter le métier de libraire. Hugo, Lise, c'est à vous.
Littéraire est une récompense officielle pour une œuvre littéraire. Il est décerné par un jury de lecteurs. Il existe de nombreux prix littéraires, comme par exemple le prix Goncourt. Pour les enfants, il existe entre autres le prix des Incorruptibles, qui est décerné par les jeunes lecteurs de toute la France, de la maternelle au lycée. Dans notre quartier de Cronenbourg, en collaboration avec la librairie Le Fil Rouge, nous décernons depuis 3 ans maintenant le prix des Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est un prix littéraire dont son but est de récompenser la meilleure littérature de jeunesse, selon les âges, de la petite section de maternelle jusqu'à la 6e. Les élèves de toutes les écoles de Cronenbourg ont la possibilité de voter. Une présélection des œuvres a été faite par les libraires du Fil Rouge. Ensuite, cette présélection de livres a été soumise à des enseignants de chaque niveau qui ont sélectionné 4 ou 5 livres pour chaque niveau. Les Jeux Olympiques d'été organisés en France en 2024 ont orienté la sélection vers le thème du sport, mais aussi autour des valeurs que le sport véhicule. Nous allons vous présenter en quelques mots les différentes sélections par niveau.
En CP5 livres, en concurrence sur les thèmes du foot, on trouve 2 livres, Nous les hommes et Allez le mec. Autour des chevaux, nous avons le livre course, toujours autour des ballons, mais pas du foot. Cette fois-ci, nous avons l'usine à ballons. Et enfin, pour parler de bienveillance, il y a le petit garçon qui n'aimait pas perdre. En C1, CE2, 4 ouvrages sont en concurrence sur le thème du vélo. On trouve L'île au vélo et Allez bébé. Le foot est présent dans le livre Azadeh qui nous raconte l'histoire du jeune Israélien passionné de ce sport. Et enfin, on trouve Olive et Zélie qui nous racontent l'histoire d'une escargotte de course.
En CM, là aussi, nous retrouvons 4 œuvres en concurrence. La petite danseuse nous raconte la vie d'une petite fille devenue petit rat de l'opéra. Dans la grande course de Jean, nous retrouvons 3721 gens participants. Embûches et pièges variés vont ponctuer cette course. Babyface, adapté en bébé, en BD, nous raconte l'histoire de Nejma, une petite fille que personne n'aime dans sa classe. Différence, intégration, mais aussi amitié et bienveillance seront au rendez-vous. Enfin, dernier ouvrage pour le CM, Timmy qui rêvait de gagner les Jeux Olympiques. Dites voir les copains, vous avez déjà commencé à lire les livres dans votre classe ?
Oui. Non.
Alors, vous avez sans doute déjà des préférences.
Moi, l'histoire que j'ai préférée, c'est Allez mémé, le petit cochon qui apprend à faire du vélo avec sa mémé et rigolo.
Sympa cette histoire, mais moi je préfère L'île au vélo, encore une histoire de vélo. Mais celle-ci nous montre que le vélo, c'est mieux que la voiture, c'est plus écologique.
Merceline et Maëlys, rendez-vous en juin pour les résultats de ce prix des incorruptibles.
Pour compléter cette chronique, nous avons eu la chance d'aller à la rencontre du libraire Notre Quartier, Jean-François Savona. Notre première question se tourne vers le métier du libraire. En quoi consiste-t-il ?
Mon travail de libraire, déjà, c'est un travail de marchand. C'est-à-dire qu'ici, on vend des livres. Donc, mon travail, c'est de vendre des livres. Mais il y a donc tout un travail à côté qui est de commander les livres que tu vois ici, il faut les commander. Et puis, il faut réceptionner les livres, c'est-à-dire que de temps en temps, deux fois par semaine, on reçoit des cartons avec plein de livres. Puis, il faut sortir tous ces livres, les enregistrer dans un ordinateur pour avoir le stock de livres à jour.
Comment avez-vous eu envie d'être libraire ?
Alors, comment j'ai eu envie d'être libraire ? Il y avait une librairie ici dans le quartier il y a plus de 15 ans. Et cette librairie, malheureusement, a fermé. Et moi qui allais très souvent dans cette librairie pour acheter des livres, parce que j'aime beaucoup lire, j'étais très triste que cette librairie ait disparu. Alors je me suis dit, je vais ouvrir une librairie moi-même, pas que moi-même, parce que c'est une librairie associative, c'est-à-dire avec plusieurs amis, on a décidé de maintenir une librairie dans le quartier, d'ouvrir une librairie ensemble, et c'est cette librairie que tu vois qu'on a créée.
Vous nous parlez de librairie associative. Cette librairie a-t-elle le même fonctionnement que toutes les librairies ?
C'est une librairie tout à fait normale, on peut dire, si ce n'est qu'effectivement c'est une librairie associative. C'est pas juste un monsieur qui s'occupe d'une librairie, mais c'est un groupe de personnes qui se relaient pour venir vendre les livres. Voilà, il y a un seul salarié, c'est-à-dire une seule personne qui est payée. Toutes les autres qui viennent ici aider dans cette librairie, ce sont ce qu'on appelle des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas payés pour venir ici, qui donnent de leur temps pour venir travailler ici.
Vous avez déjà répondu à la prochaine question. Vous ne travaillez pas seul ici, mais combien êtes-vous alors ?
Donc on est une quinzaine à se relayer selon les jours pour venir travailler pendant les heures d'ouverture de la librairie et même en dehors des heures d'ouverture de la librairie.
Encore une question pour laquelle la réponse nous semble évidente, mais aimez-vous lire ?
Je crois que ça, c'est la qualité première d'un libraire, c'est effectivement d'aimer lire. Moi, j'adore lire et je ne peux pas m'endormir le soir sans lire 1, 2, 3, 4, 5, 10 pages d'un livre. Il faut absolument que je m'endorme. C'est mon doudou à moi, le livre. Hein.
Pouvez-vous nous dire quels sont les livres les plus achetés pour les enfants d'âge scolaire?
Alors, le livre le plus acheté, je pense que c'est les mangas. Alors, évidemment, les plus lus et les plus achetés, c'est Mortel Adèle. Oui.
Un grand merci à Jean-François Savona pour ses réponses et son accueil à la librairie.
Super votre chronique littéraire et merci à la librairie du Fil Rouge d'avoir ouvert ses portes pour notre micro. J'ai hâte de connaître le résultat des incorruptibles. Peut-être nous vous avons parlé dans une prochaine émission. Nous nous approchons de la fin de cette émission, mais avant, nous allons écouter notre dernière chronique qui a été préparée par Lise et par Anouar, qui vont nous parler de leur meilleure chose à faire, savoir jouer.
Nous allons aujourd'hui vous parler des jeux de société. Alors qu'est-ce que c'est ? Un jeu de société, c'est un jeu que l'on joue souvent à plusieurs, sauf les casse-têtes. On doit réaliser un objectif solo collectivement pour gagner, tout en respectant certaines règles. Ce type de jeu permet non seulement de s'amuser, mais aussi d'apprendre à gérer son stress, développer son raisonnement ou encore gérer sa concentration.
Il existe plusieurs types de jeux de société. Les jeux de dés se jouent uniquement avec des dés, comme le Yaz, le Quix ou le 421. Les jeux de cartes se jouent avec un jeu de cartes classique de 32 ou de 50 cartes, ou des cartes spécifiques comme pour le Uno. On peut citer comme exemple le jeu de bataille, la belote, le Kems ou encore le poker. Les jeux de plateau se jouent avec un plateau de jeu, parfois des cartes, des pions ou encore des dés. Par exemple, il y a le Monopoly, les petits chevaux ou la bonne paye. Enfin, les jeux de rôle se jouent avec des pions ou des personnages. Il faut aussi parfois avoir besoin d'un plateau, de dés ou de cartes. Il y a par exemple Maléfique, Donjons et Dragons ou le Loup-garou. Et toi, Noir, pourrais-tu nous parler d'un jeu que tu aimes bien ?
Moi, j'aime bien jouer à Mirogolo. C'est un jeu qui se joue en équipe. Le but du jeu est de faire deviner à son équipe un mot que l'on a dessiné. Mais pour faire le dessin, on doit mettre des lunettes déformantes, c'est très rigolo. Et toi Alice, quels sont tes jeux préférés ?
J'aime beaucoup de jeux, mais je peux vous parler de Fantasy, par exemple. C'est un jeu de cartes avec des personnages fantastiques, comme des elfes, des ogres, des loups-garous, des lutins et plein d'autres personnages. Chaque peuple a son propre secret. Le but du jeu est de poser le plus de cartes personnages devant soi afin d'obtenir le plus grand nombre de peuples. Lorsque la pioche est finie, que vous n'avez plus de cartes dans les mains, le jeu s'arrête et vous comptez les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Et vous les copains, c'est quoi vos jeux préférés ?
Moi, mon jeu préféré, c'est le Uno. Ah, c'est un jeu de cartes où le but est de se débarrasser de toutes ses cartes, mais surtout d'empêcher les autres de le faire. C'est un jeu où l'on rigole beaucoup.
Moi, c'est le Loup-garou. C'est un jeu de rôle. Il y a bien une personne ou plusieurs personnes qui sont en secret les loups-garous. Et leur but est de dévorer les villageois. Si vous êtes un villageois, le but du jeu est de capturer le ou les loups-garous. Il y a plein d'autres rôles qui font que c'est un jeu très rigolo, surtout quand on est nombreux.
Vous l'avez compris, les jeux de société sont un bon moyen de s'amuser à plusieurs, en famille ou avec des amis. Alors il ne vous reste qu'une chose à faire, allez jouer.
Vraiment très chouette cette chronique, ça donne envie de découvrir certains jeux. Bravo et merci Lise et Anouar pour ces découvertes.
Ça y est, nous arrivons à la fin de notre émission. De cette émission, je rappelle la première diffusée en direct cette année. Nous espérons que vous avez apprécié l'écouter, que vous avez appris autre chose, autant de choses que nous, et que cela vous a donné envie de vous détacher quelques instants des écrans pour lire, écouter de la musique, faire du sport, danser, jouer, bref, plein de manières différentes de s'amuser. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission et de pouvoir la diffuser en direct. Merci également à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions, adultes comme enfants. Je vous félicite, vous les copains, pour votre super travail. Bravo avec toute l'équipe de la radio. Assis, Hugo et Issa, Anouar, Lise, Alexandre qui n'est pas avec nous aujourd'hui, coucou, mais aussi Lynn, Madame Rodriguez et Monsieur Marcinkowski.
Et nous ne t'oublions pas. Bravo, bravo Maïlis. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour la dernière émission de l'année qui sera également diffusée en direct. Et nous souhaitons d'ici là un agréable printemps.